9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. En France, seulement 3% de nos déplacements se font à vélo. Pourquoi pas le vélo, demande Stijn van Oosteren dans un petit livre décapant pour ce Hollandais installé depuis belle lurette dans notre pays. Nous, les Français, n'avons pas encore compris tous les avantages du vélo. Je reçois également Anne Sénéquier, la co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Joe Biden a annoncé qu'il était favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. On va voir avec elle ce que cela risque de changer. Mais d'abord, le 10 mai 81, dont le 40e anniversaire tombe demain, un événement historique à n'en pas douter, puisqu'il suscite toujours autant de curiosité. Hubert Védrine, qui se trouvait aux premières loges à l'époque, est mon premier invité ce matin. Hubert Védrine, bonjour. Vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Lionel Jospin de 97 à 2002. Mais auparavant, vous avez passé 14 ans à l'Élysée auprès de François Mitterrand comme conseiller diplomatique d'abord, puis porte-parole de la présidence. Et à partir de 1991, comme secrétaire général de la présidence de la République. Le 10 mai 81, vous aviez 33 ans. Est-ce que vous aviez conscience de participer à un événement historique de la trempe, enfin du moins au point que 40 ans après, on aura encore la curiosité de vous demander alors comment c'était?
J'avais aucune idée de ce que les gens penseraient 40 ans après, mais oui, on avait le sentiment de participer à un événement très important, en tout cas, historique, je ne sais pas, mais c'était la première alternance quand même, sous la Ve République. D'autre part, les gens qui avaient été associés pour des raisons personnelles, privées ou politiques ou publiques à François Mitterrand avaient le sentiment que c'était une épopée qui avait commencé longtemps avant et qui trouvait son aboutissement presque normal. Une élection, c'est jamais sûr, mais enfin. Donc il y avait ce sentiment de plénitude, il y avait une exultation, il y avait une joie, une effervescence. Et en réalité, on ne cherchait pas à mettre le mot événement historique, vous voyez, ça vient après.
Vous étiez énarque, est-ce que c'était bien vu d'être de gauche, d'être mitterrandiste à l'époque dans la haute fonction publique?
Bon, d'abord, il n'y a pas de lieu de concertation générale de la haute fonction publique, mais il est évident que, puisque François Mitterrand avait failli être élu en 1974, ça s'était joué à peu, que même des hauts fonctionnaires qui étaient tout à fait à l'aise dans l'époque giscardienne se disaient un jour ou l'autre, il y aura un président de gauche. Et François Mitterrand va peut-être être élu la prochaine fois. Donc c'était pas forcément souhaité, mais c'était considéré comme tout à fait envisageable. Donc ça crée des comportements, en tout cas de curiosité par rapport à cette hypothèse. Donc ça m'arrivait alors que j'étais très jeune et que j'avais aucune idée de la suite, en fait, que des gens me disent, mais à votre avis, comment ça se passe si François Mitterrand va être élu? Je pouvais répondre sur sa capacité à être président, mais pas sur les scénarios politiques.
Vous l'avez dit, il n'y avait pas eu d'alternance depuis 23 ans. Cela pouvait sembler inatteignable pour beaucoup. Certains avaient d'ailleurs reporté leurs espérances sur Michel Rocard après la défaite de la gauche en 78 aux élections législatives. Rocard lui-même avait déclaré qu'un certain archaïsme était condamné. Vous n'avez jamais douté, vous, de l'avenir de François Mitterrand? Parce qu'après tout, ce n'est qu'en mars 80 que les sondages ont commencé à lui être favorables.
Alors, le débat n'était pas que personnel, en fait. Il était largement stratégique, puisque l'idée dominante à gauche pendant très longtemps, après la 4e, sur toute la 5e, c'est que la gauche non communiste n'arriverait jamais au pouvoir avec les communistes, c'était trop dangereux, ni sans les communistes, parce qu'ils ne seraient pas assez nombreux. Jusqu'à ce que François Mitterrand arrive et l'audace extraordinaire d'oser concevoir l'union de la gauche, de la mettre en place, de la conduire. Et c'est là où il y a une discussion, un débat, une controverse interne à la gauche entre ceux qui acceptaient cette stratégie d'union de la gauche avec les communistes et ceux qui, Rocard en tête, la contestaient, avec peut-être des tas de bonnes idées sur ce qu'il fallait faire arriver au pouvoir, mais le débat portait sur comment arriver au pouvoir. Et là, c'est la stratégie de Mitterrand qui l'a emporté, c'est la seule qui a fonctionné, c'est lui qui a gagné, et tous les Rocardiens qui ont été au pouvoir, à commencer par Michel Rocard et d'autres ministres qui ont justement fait un excellent travail, ils étaient au pouvoir grâce à la réussite de la stratégie de Mitterrand, pas la leur, vous voyez.
Ouais.
Donc il faut un peu dépersonnaliser l'affrontement, la compétition qui a eu lieu là-dessus.
François Mitterrand est à Château-Chinon, à l'hôtel du Vieux-Morvan, au moment des résultats, le 10 mai 81. Il rentre ensuite à Paris, il se rend rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste. Vous étiez où, là, toute cette journée?
J'étais à Château-Chinon, parce que je votais dans la Nièvre, à Saint-Léger-des-Vignes. Le soir, j'avais rejoint Château-Chinon, j'étais avec mon épouse, et on était là, dans la petite foule sympathique qui était autour de l'hôtel du Vieux-Morvan, et on a entendu les rumeurs à partir d'une heure et demie avant, qu'indiquait que François Mitterrand allait gagner. Et nous pensions en effet que ça allait arriver un jour ou l'autre. Et on l'a vu sortir avec Daniel Mitterrand sur la terrasse du Vieux-Morvan. Et en étant dans la petite foule qui l'a accompagné jusqu'à l'hôtel de ville de Château-Chinon, on l'a entendu faire sa première déclaration de président élu. Et après, il est reparti de cette salle des fêtes comble par un couloir à côté dans lequel j'étais avec mon épouse. Il vient vers nous, il se prend la tête entre les mains et il dit « Vous vous rendez compte de ce qui nous arrive ?» Donc c'est un souvenir très précis que j'ai. Et voilà, mon 10 mai à moi.
Il n'y a pas eu de fête parce que, bon, la place de la Bastille, c'est une fête populaire, en grande partie impromptue, d'ailleurs animée par Claude Villers. Il y a un orage. Vous n'avez pas fêté ça, au fond?
Je suis rentré à Paris tard dans la nuit, trop tard.
Hey.
Parce que je suis reparti de la Nièvre et on avait une vieille bagnole qu'on est arrivé lentement.
Vous n'aviez vraiment aucune idée, je ne dis pas seulement ça pour vous, mais je crois pour tout l'entourage, de à quel poste François Mitterrand allait tous vous nommer. On a l'impression que c'est venu très tardivement. Pierre Mauroy n'aurait appris qu'il allait être Premier ministre qu'une fois Mitterrand entré en fonction le 21 mai.
Non, il l'a su au moins 15 jours avant.
Ah.
Pour Pierre Mauroy. Pour l'entourage, bon, d'abord, c'est assez classique, mais le noyé de l'entourage, on savait qui serait là. Enfin, on savait. Il savait. Moi, je ne savais pas spécialement, sauf que le soir du 10 mai, François Mitterrand m'a demandé de prendre contact avec sa secrétaire de l'époque, Marie-Claire Papeguet, que j'ai appelée, qui m'a demandé de rejoindre l'antenne présidentielle où j'ai vu Bérégovoy. Donc, je savais je serais dedans, mais je ne savais pas trop pourquoi faire encore. C'était évident qu'il y aurait Bérégovoy, qu'il y aurait Attali, qu'il y aurait André Rousselet, qu'il y aurait Michel Vauzelle, qui est devenu le porte-parole au début, Nathalie Duhamel, Jean Glavany, Jean-Claude Collière, quelques autres. Mais on arrive à 10 à 12 personnes, vous voyez, c'est ceux qui étaient là le jour où il y a eu le grand repas à l'Élysée pour l'entrée en fonction.
Le 21 mai, donc.
Avec des gens extraordinaires venus de l'autre bout du monde, comme Gabriel Garcia Marquez, comme William Steinron, Yachar Kemal, par ailleurs Willy Brandt, enfin, c'était très 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 émouvant. Et après, on était donc une petite douzaine. Bon, les rôles se sont précisés. Là, je parle des collaborateurs, hein, pas des ministres. Les rôles se sont précisés dans les jours qui ont suivi, mais ce n'était pas organisé comme du papier à musique le premier jour. Hein.
On fait une pause, Hubert Védrine. Vous allez nous raconter justement votre arrivée à l'Élysée, parce que ça a dû être un sacré choc.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Hubert Védrine qui nous raconte ce fameux mois de mai 1981. On est donc le jeudi 21 mai, jour de l'investiture de François Mitterrand. Avant cela, entre le 10 et le 21, il ne s'est rien passé au fond. Il paraît qu'il n'y a eu aucun contact avec le pouvoir giscardien. C'est vrai dans vos souvenirs?
Je crois que c'est inexact. En ce qui me concerne, comme Bérégovoy, sans savoir exactement quel serait mon rôle après, c'est après qu'il est apparu que je serais le conseiller diplomatique, en tout cas le conseiller pour les relations extérieures, c'était le terme de l'époque. Moi, j'ai eu un contact dès le lendemain avec le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, qui m'a appelé, qui avait lu dans le journal que je m'occuperais de ça. En fait, je n'avais aucune expertise à l'époque. Et qui aussitôt m'a fait porter tous les jours ce qu'on appelait la collection ministre des télégrammes diplomatiques. Il y en avait des centaines par jour, il y avait une sélection destinée à l'Élysée ou au ministre. Donc il y a eu un contact tout à fait, on ne peut plus, convenable même. Ils ont cherché à faciliter les choses. Après, il faudrait prendre ministère par ministère, mais on ne peut pas dire que globalement, il n'y ait pas eu de contact. Et d'autre part, il y a eu des contacts au niveau des chefs de cabinet pour organiser la passation de pouvoir, les dates exactes préparatoires menées autour de Pierre Bérégovoy, également de Jacques Attali, pour préparer la suite. Mais pour une première alternance, même si on a dit que dans un premier temps, Valéry Giscard d'Estaing, un peu meurtri, ne voulait pas qu'il y ait de contact, en fait, il y en a eu. Ses collaborateurs ont facilité les contacts.
Donc,
ça s'est bien passé, en fait.
Oui, on a dit que l'Élysée avait été vidée, qu'il ne restait rien, pas de documents, pas d'archives. C'est le souvenir que vous en avez?
Bon, en général, de toute façon, les archives importantes sont envoyées aux archives. Donc on laisse, pas grand-chose, oui. Personnellement, après le grand déjeuner, là, du journée de l'entrée en fonction, je me suis retrouvé avec Régis Debray, qui était dans notre petite équipe. Et nous avons erré dans les couloirs à peu près déserts. Des huissiers nous ont dit, mais vous cherchez quoi? On dit, bon, on cherche les choses internationales, un peu diplomatiques. On dit, allez dans cette direction-là. Bon. Donc on a abouti à quelques bureaux vides, encore, où il y avait deux remarquables secrétaires qui étaient là depuis le général de Gaulle, l'autre depuis Georges Pompidou. Et on s'est dit, bon, on va se mettre là. Bon, alors on s'est mis dans les bureaux, on n'avait rien encore, mais ils nous ont expliqué comment marchaient les téléphones, des choses comme ça.
Mais justement, alors on a l'impression que autour de François Mitterrand, à l'époque, personne n'avait l'expérience du pouvoir, au fond, puisqu'on l'a dit, ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu d'alternance. Est-ce que vous étiez impressionné?
Non, il y a quand même des gens expérimentés dans les ministres. Il y avait Gaston Defferre, par exemple, vous voyez.
Qui avait été ministre.
Savary, qui avait été ministre. Et puis André Rousselet connaissait le fonctionnement du pouvoir. Donc, et puis il y avait des, pas dans les postes principaux, mais comme conseiller, il y avait des gens comme Paul Le Gat qui connaissaient les choses. Donc il y avait un savant mélange entre des gens très jeunes dans mon genre, 33 ans, vous voyez, et puis des, quand même des animaux de pouvoir déjà. Ou alors des gens qui avaient exercé du pouvoir politique, comme Bérégovoy, mais qui savaient comment faire marcher une équipe. Alors bien sûr, on était impressionnés, bien sûr. Mais il y avait une telle ivresse de joie, d'excitation, d'amusement, de découverte, que ça surmontait, c'était plus fort que l'impression. En tout cas, ce n'était pas intimidant à cause de ça.
Et l'acclimatation au pouvoir à ses ors, à ses dorures plus exactement, mais aussi et surtout à son exercice. Est-ce qu'on s'habitue du jour au lendemain à contrôler l'appareil d'État ?
Alors d'abord, les ors, les dorures, ça ne compte pas. Parce que du jour au lendemain, vous travaillez 20 heures par jour, vous avez à régler des problèmes toutes les 3 minutes, et vous avez des vies aussi intenses en une journée que la plupart des gens normaux, même tout à fait actifs, en un mois, vous voyez. Donc vous êtes pris là-dedans, et alors soit vous tenez le choc, soit vous le tenez pas. C'est pas une question d'accoutumance. Et puis le cadre ne compte pas, vous oubliez le cadre en fait. Donc l'histoire des dorures, c'est idiot, ça joue pas du tout. Alors après, ça dépend de ce dont on est chargé, ça dépend si on arrive à résister au stress, au décalage horaire pour les gens qui s'occupent d'affaires internationales. Est-ce qu'on arrive à se coordonner avec les autres? Ils se posent les mêmes questions que dans n'importe quelle organisation humaine. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que les ordres sont bien donnés? Comment tout ça est organisé? Dans le cas de l'Élysée, c'est Pierre Bérégovoy qui a joué un rôle très remarquable et très important en tant que secrétaire général pour organiser les méthodes de travail. Avec ceux qui travaillaient, qui envoyaient des notes au secrétaire général adjoint ou directement au secrétaire général, dans quelques cas directement au président, et comment ils faisaient fonctionner tout ça. Enfin, le secrétaire général, c'est une sorte d'aiguilleur du ciel, de tour de contrôle, vous voyez, qui fonctionne tout le système. Donc ça a été très... Peut-être que tel ou tel individu, fraîchement émoulu, était un peu incertain de ce qu'il fallait faire, mais l'organisation Bérégovoy était très professionnelle tout de suite.
Et vous êtes resté 14 ans, je le disais. Est-ce que le stress a diminué? Est-ce qu'on s'habitue au bout d'un certain moment? Parce qu'en plus, vos attributions étaient de plus en plus lourdes.
Alors, si on est... pas capable de résister au stress, ça se voit assez vite. Et en fait, vous pouvez pas rester dans des lieux comme ça. C'est trop lourd, trop difficile, trop stressant, précisément. Si vous avez la chance d'avoir une constitution qui résiste au stress, parce qu'il n'y a pas à s'en vanter, on est comme ça ou on n'est pas, vous voyez, eh bien, vous pouvez continuer. Là, évidemment, il y a des moments plus difficiles que d'autres, plus compliqués. Il y a eu des moments de tension interne, évidemment, les tensions internationales, mais c'est souvent les tensions à l'intérieur de la mécanique du pouvoir qui sont plus difficiles. Vous êtes en relation avec plein de gens, vous êtes en désaccord avec l'un, mais... une demi-heure après, vous avez besoin de vous appuyer sur lui contre un autre, ou contre une autre idée. Donc la machine a tranché, décidé, arbitré, c'est très très rapide. Ça peut être psychologiquement destructeur, sauf si on arrive à s'en protéger un peu. Donc il faut être à la fois complètement engagé, très rapide, très opérationnel, et avoir un tout petit peu de quant à soi. Vous voyez, un tout petit peu de sens de la dérision des choses, ça protège un peu.
Et François Mitterrand, on a l'impression, en tout cas, ceux qui regardaient tout ça à la télévision à l'époque, ont l'impression qu'il s'est coulé immédiatement dans son personnage de président de la République. C'est l'impression que vous avez eue, vous aussi, plus près de lui que d'où?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour l'anecdote, je rappellerai qu'il était président du Conseil général de la Nièvre à l'époque, et énormément de gens l'appelaient président depuis très très longtemps, mais pas à cause de la Nièvre. Il l'appelait président parce qu'il pensait qu'il... il devait être président, qu'il le serait un jour, qu'il ait failli l'être en 74, c'était sa nature, et que c'était l'aboutissement normal de son destin, de cette épopée qui avait démarré longtemps avant. Donc pour la grande partie des gens, c'était évident, ça allait de soi. Par contre, ceux qui ne le connaissaient pas, ou qui le voulaient de loin, ou qui l'avaient combattu politiquement, ou qui ne croyaient pas que la gauche était capable d'arriver au pouvoir, d'exercer le pouvoir, qui ne pensaient pas que... un président de gauche puisse contrôler des ministres communistes. Enfin, vous voyez, toutes ces visions-là, beaucoup de gens l'ont découvert après, petit à petit, y compris des gens qui n'avaient pas du tout voté pour lui, mais qui ont découvert à un moment ou à un autre que c'était un vrai président. Et même, on peut dire, un grand président, même si les controverses n'ont à peu près jamais cessé. Ils n'ont continué, d'ailleurs, depuis. Il s'est imposé comme étant, évidemment, un grand président. En plus, c'est le dernier président qui est élu... pas le dernier, dans le cadre des septennats, puisque pas le dernier, ce que Chirac a fait, un septennat. Mais avec le recul, on voit que François Mitterrand aura été le seul des présidents des cinq républiques à accomplir deux septennats. évidemment en intégrant les deux cohabitations.
Merci Hubert Védrine. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux de la géopolitique est paru chez Plomb et Fayard. Et maintenant, la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Joe Biden y est favorable, Emmanuel Macron aussi. Qu'est-ce que ça changerait? Anne Sénéquier va nous le dire juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Bonjour Anne Sénéquier, vous êtes pédopsychiatre, co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Joe Biden s'est dit favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid. C'est un retournement très important car c'était les États-Unis qui étaient opposés à la levée des brevets. Je rappelle que Pfizer et Moderna sont des laboratoires américains. Le directeur de l'OMS a sauté de joie. Emmanuel Macron, qui était plutôt défavorable, est à présent favorable. Pour vous, ça signifie quoi tout ça ?
Ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact à plusieurs niveaux. Au niveau sanitaire, au sens strict médical de la pandémie, c'est quelque chose qui va permettre d'accroître la capacité de production de vaccins et permettre justement de toucher plus de monde sur la vaccination. Alors, ne soyons pas naïfs, ça ne veut pas dire que demain, on aura la capacité de fabriquer 12 milliards de doses en deux mois, parce que c'est ce dont nous avons besoin, concrètement. Ça prendra, je pense, la bonne deuxième moitié de l'année, mais ça permettra justement d'arriver à pouvoir vacciner sans avoir finalement cette menace d'une émergence d'un nouveau variant. Parce que concrètement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe, par exemple, aux Seychelles, où on a 60% de la population qui est vaccinée avec des vaccins de première génération, où ils font face à une recrudescence de l'épidémie d'un variant qui n'est pas immunocompatible avec le vaccin. De fait, il y a une nouvelle vague de contamination. Alors, c'est à l'échelle de l'île, mais quand même qui pose de sérieux problèmes sur le système de santé. Et c'est un petit peu illustration de ce qui risque de nous arriver finalement sur toutes les populations qui commencent à avoir des populations de plus en plus vaccinées, mais qui ne sont pas à l'abri justement d'un retour de manivelle avec l'arrivée sur le territoire d'un variant qui pourrait challenger cette vaccination. Le fait de lever les brevets sur les produits de vaccination à la Covid permettrait justement de faire diminuer aussi les chaînes de transmission dans tous les pays du monde de manière concomitante et effectivement de limiter la circulation du virus qui limiterait le risque d'émergence d'un nouveau variant. Ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que on a envie d'y voir finalement un bon sens, une vérité fondamentale. La vérité fondamentale, c'est que le monde entier meurt d'un même virus et qu'on y opposait finalement une vérité fictionnelle, le droit du commerce. Et ça, c'est un problème parce qu'on a besoin aujourd'hui de bon sens et de comprendre que cette pandémie, et c'est dans la sémantique même, c'est une maladie qui touche l'entièreté du globe, a besoin qu'on soit tous ensemble, peu importe la nation, derrière un même objectif. Et c'est ce qui ne s'est pas passé jusque-là. On a parlé énormément de bien commun de l'humanité, l'Europe en a parlé, les États-Unis en ont parlé, et finalement, dès que les laboratoires ont commencé à apporter des premiers résultats, les pays occidentaux et ceux qui en avaient les moyens se sont pressés de faire des contrats bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques, ce qui a drastiquement handicapé cette principe d'équité vaccinale au niveau mondial et qui se retrouvait finalement avec une sorte de diplomatie du vaccin ce début de l'année 2021, où des nations productrices de vaccins telles que la Russie, telles que la Chine, telles que l'Inde ont pu développer justement ce que l'Europe et le monde occidental n'a pas voulu faire dans un premier temps en disant le vaccin sera bien commun à l'humanité, mais on ne le fait pas puisqu'on a coopté les premières doses de vaccin. Et ces pays-là ont pu le faire. Et du coup, on voyait que cette diplomatie, la Chine qui tissait sa nouvelle route de la soie en la consolidant à travers justement ces donations de vaccins, l'Inde, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même impactée par une nouvelle chaîne de contamination, fournissait jusqu'à 75% des vaccins qui sont sur le système COVAX. Et la Russie également qui retournait un petit peu sur ses terres amies, que ce soit la Turquie, l'Afrique du Nord ou même l'Amérique latine, où justement il y avait de plus en plus de connexions là. Et de cette diplomatie du vaccin, l'Occident s'était c'était un peu exclu finalement. Et là, le fait de se dire que les États-Unis proposent justement la levée des vaccins change la donne et ça permet justement à l'Occident, à travers les États-Unis, de reprendre un peu le devant sur la scène internationale. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas en termes de géopolitique, nous verrons la suite. Par contre, c'est une très bonne nouvelle sur justement cette cohérence et cette solidarité que l'OMS appelle de tous ses voeux depuis le début de la pandémie.
Tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Le gouvernement allemand, par exemple, a rappelé que la protection de la propriété intellectuelle est source d'innovation et doit le rester, que ça risque au fond de provoquer une ruée sur les ingrédients nécessaires à fabriquer ces vaccins et provoquer une pénurie mondiale. Si on lève les brevets demain, au fond, qu'est-ce qui se passe concrètement ? On donne la recette, mais on ne fournit pas les ingrédients, ni la main-d'œuvre, ni les ustensiles pour la cuisiner. Est-ce que ça va vraiment aider tout le monde ?
Alors c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça va pas être aussi simple que en un mois pouvoir sortir ces 12 milliards de vaccins. Pour revenir sur le début de votre question, effectivement certains pays ne sont pas trop pour et c'est ce qui se passait au début où on a l'Allemagne qui veut protéger justement ses industries, donc pour l'instant n'est pas très chaude sur l'idée. Il faut se souvenir aussi que ces vaccins ont été financés, le développement de ces vaccins ont été énormément financés par des fonds publics. Donc aujourd'hui, pouvoir dire que en levant les brevets, finalement, on va tuer la recherche et développement, ça pourrait être le cas si finalement c'était seulement des fonds privés, mais ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une dynamique de maintenir une économie, on est dans une dynamique de sauver des vies sur une pandémie qui n'est pas dans un temps court, c'est-à-dire 2 mois et on aurait pu gérer ça. Non, ça fait 1 an et demi. Et aujourd'hui, il faut changer justement ce paradigme-là. Et le principe justement d'opposer des obstacles à ceci est compliqué.
Anne Sénéquier, on s'interrompt, on fait une pause, on se retrouve juste après et on va voir les conséquences.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Anne Sénéquier, la co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. On le disait, le gouvernement allemand pense que ce qui limite aujourd'hui la fabrication des vaccins, y compris dans le tiers-monde, ce sont les capacités de production et les exigences élevées de qualité. Ce ne sont pas les brevets. Alors, vous le disiez vous aussi, hein, Anne Sénéquier, ça ne va pas résoudre le problème d'un instant à l'autre. Hein.
Non, c'est vrai, mais il faut aussi avoir une chose en tête, c'est que peu importe la problématique, que ce soit surtout en médecine, mais à partir du moment où vous réfléchissez sur un domaine au niveau global et international, de toute façon, les déterminants sont énormes. Donc, il n'y aura pas de solution simple et unique. Ceci étant, la levée des brevets pourra permettre justement une augmentation en capacité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est facile de le faire. Et il va falloir aussi arriver à passer au-delà de nombreux obstacles, parce que comme vous le disiez, c'est pas aussi simple que de lire une recette, fabriquer un brevet. Il va falloir former les équipes de fabrication dans les différents pays, que ce soit en Inde, en Brésil, en Afrique en général. Résoudre des problèmes d'approvisionnement qu'on a déjà, puisque dans un vaccin, il y a plusieurs centaines d'ingrédients, que ce soit sur le vaccin lui-même, mais aussi au niveau du packaging, du verre, du métal, matière première, où on a déjà des goulots d'étranglement sur certaines matières. Et on a aussi des ambiguïtés, par exemple, avec M. Biden qui dit « bon, on va lever les brevets » et qui, en même temps, il y a toujours une imposition sur le contrôle aux frontières, sur certains composants. Donc, il va falloir finalement rendre cela possible. Ça va prendre énormément de temps et probable que ça prenne 6 à 7 mois. Mais finalement, aujourd'hui, cette pandémie, tout ce qu'on peut pour faire accélérer la réponse et finalement rattraper la pandémie par la campagne de vaccination est bon à prendre. Il y a une problématique autre, c'est la logistique. Aujourd'hui, on voit bien que avoir des vaccins seulement ne suffisent pas. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'en France, où à un moment donné, on avait plus de vaccins dans les frigos que dans les centres de vaccination. On se rend compte que cette problématique-là, elle est vraie aussi sur la totalité des États. Sauf que agir sur un des maillons de la chaîne va nous aider justement, petit à petit, action après action, à avancer les choses. Sur certains États, c'est le manque de production qui est la problématique numéro un. Sur d'autres, ça sera une logistique. Et je pense que ce serait intéressant justement de pouvoir faire de la haute couture et d'arriver justement à pouvoir apporter une solution sur chaque problème sur le au niveau national.
Anne Sénéquier, il y a aujourd'hui une obligation en fond d'aider le reste du monde sur le plan moral, mais aussi sur le plan sanitaire, parce que sinon ce seront des variants qui reviendront vers nous et personne ne le souhaite. Vous avez dit qu'il y avait une diplomatie du vaccin de la part de la Chine, de la Russie, on pourrait ajouter Cuba d'ailleurs, et on a l'impression que le ressentiment grandit en Afrique par exemple, contre les Occidentaux qui eux sont accusés de nationalisme vaccinal. Alors voilà quelque chose qui pourrait un peu redorer notre blason.
Oui, c'est vrai, c'est très vrai, puisque on entre un petit peu finalement dans la géopolitique de l'émotion, et ça revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure de cette Europe qui a brandi le vaccin l'année dernière comme un bien commun de l'humanité et qui finalement, mis au pied du mur, a voulu garder les vaccins pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qui restera. Et se rendre compte que finalement cette coopération aujourd'hui que l'on pense être de la générosité envers les pays qui pour l'instant n'ont pas la capacité financière d'acheter des vaccins, on se rend pas compte que finalement on travaille aussi pour nous. Le fait de ne pas avoir de résurgence d'un nouveau variant dans un pays qui n'a pas la capacité aujourd'hui de vacciner, c'est une bonne chose pour les pays qui sont déjà vaccinés et qui ne se retrouvent pas du coup avec une souche de virus qui va venir challenger cette vaccination. Et c'est aussi une bonne chose au niveau géopolitique et au niveau de développement au niveau mondial, parce qu'on a besoin de cette coopération internationale sur d'autres thématiques, telles que par exemple le changement climatique, où on a besoin que le monde entier s'accorde sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aussi demander à ces mêmes pays à qui aujourd'hui on a refusé des vaccins de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, de limiter leur développement carboné. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire finalement lors de la prochaine COP quand on leur dira qu'il faut changer de développement et qu'on a refusé justement la levée des brevets de la même manière qu'on a refusé la levée des brevets sur les technologies à bas carbone. Ils vont nous dire que ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on n'aura pas de vaccin justement sur la pollution de l'air, on n'aura pas de vaccin sur le changement climatique. Donc on aura seulement notre seule arme pour résoudre ce véritable challenge du 21e siècle, c'est la coopération et la solidarité. Donc c'est aujourd'hui que ça se joue, c'est un galop d'essai, si j'ose dire, pour se rendre compte que finalement on est une seule humanité et qu'on a les mêmes problèmes et que pour les résoudre, il va falloir le faire ensemble et pas de manière nationale. Et ce qui se passe par exemple aux Seychelles actuellement avec une vaccination et un retour malgré tout de l'épidémie, ça nous montre que de nous vacciner rapidement dans les pays occidentaux tout en laissant courir le virus à l'extérieur, c'est le meilleur moyen de rester barricadé chez nous pour de longs mois encore. Pourquoi ? Parce que si on arrive à avoir une immunité collective dans les pays occidentaux, mais que le virus continue de circuler dans le reste du monde, notre solution pour éviter que les variants reviennent en Europe, ça sera de fermer les frontières. Et personne n'a envie de ça, ni les Européens, ni les autres, parce qu'on est sur un monde mondialisé et que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau de l'éducation, les étudiants, on a besoin justement de rencontrer l'autre. Et du coup, on a besoin de cette coopération, que ce soit sur le niveau sanitaire, mais aussi sur les challenges qui nous attendent dans les années et les décennies à venir.
Merci beaucoup Anne Sénéquier. On fait une pause et on parle de vélo. Pourquoi 3/4 des enfants hollandais vont à l'école à vélo et pas les enfants français ? En voilà une bonne question.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
On parle d'un âge d'or du vélo en France, alors qu'ils étaient en déclin depuis l'après-guerre. Les commerces dédiés à la vente de vélos sont en plein boom. Et au même moment, on assiste à un recul de la voiture individuelle, un recul qui se précise d'année en année. Stijn van Oosteren, bonjour. Vous publiez
bonjour.
Pourquoi pas le vélo chez Ecosociété. Vous faites remarquer qu'en France, 97% des déplacements ne se font pas à vélo. Et ça vous étonne, oui. Qu'on ne se serve pas davantage de nos vélos, nous les Français.
Oui, et moi ça m'étonne que ça ne vous étonne pas, parce que c'est tellement plus pratique, plus rapide, moins cher, mieux pour la santé, mieux pour la planète. En fait, dans le livre, il y a 185 raisons qui sont détaillées pourquoi il faut, pourquoi il faut au moins offrir la liberté aux Françaises et aux Français de se déplacer à vélo. Et à nous de relever ce challenge, et vous avez raison, nous vivons un âge d'or pour le vélo, et avec le collectif Véloïde de France, nous sommes bien décidés à transformer cet essai.
Mais au fond, on voit bien que c'est dans notre culture, ou plutôt, ça n'est pas dans notre culture. Vous faites remarquer que même le ministère de la Transition écologique, dans son rapport sur le transport en 2018, oublie le vélo. Parce qu'au fond, pour les Français, le vélo, c'est un loisir, c'est pas un moyen de transport.
Oui, c'est exactement. C'est juste avant que la ministre Elisabeth Borne, qui a fait énormément de choses pour le vélo, passe un cap qui est devenu historique. Effectivement, je crois que c'est même le plus grand problème peut-être, c'est que dans l'esprit, c'est là que les barrières en général se situent, c'est que on voit le vélo naturellement comme un loisir ou comme un sport, alors que c'est un transport avant tout. C'est un moyen de se déplacer, d'aller de A à B. Et aux Pays-Bas, environ un déplacement sur quatre se font, ou sur trois même, 29%, se font à vélo. Donc c'est un moyen de transport extrêmement puissant qui peut transporter une énorme masse de personnes, beaucoup plus que la voiture individuelle, par exemple. Et c'est dans l'esprit que ça se passe. Moi, quand je fais une conférence sur le vélo, je commence souvent en disant, si vous retenez une chose de ce soir, retenez juste que le vélo, c'est pas un sport, mais un transport. C'est un réseau, comme le réseau des trains, comme le réseau des routes départementales, qui vous permet de vous déplacer facilement, et même sans payer de l'argent, sans polluer, et en plus, en utilisant votre corps, ce qui fait du bien.
Mais vous savez bien que c'est pas aussi simple. Vous donnez cet exemple aux Pays-Bas, votre pays d'origine, 3 enfants sur 4 vont à l'école à vélo. En France, c'est inimaginable. Pourquoi ?
Oui, c'est terrible. C'est terrible parce que si une catégorie de population a besoin d'utiliser son corps et de s'exercer, ce sont bien nos enfants. Ce sont les enfants qui ont besoin de au moins 60 minutes d'exercice physique modéré par jour. Et en France, notamment les filles, je viens de regarder ces statistiques, il y en a 9 sur 10 qui n'y sont pas. Les enfants français sont les champions de la sédentarité. Les parents, ils ont peur. Pourquoi ? Parce que le pays manque d'infrastructures cyclables. La première raison pour lesquels les Français et les Françaises font peu de vélo, c'est parce qu'ils ont peur des voitures, parce qu'ils sont mélangés avec les voitures. Ils vivent dans un monde binaire dans lequel il y a deux types de déplacements. Il y a les piétons, les déplacements à pied, et il y a les déplacements motorisés, c'est-à-dire les voitures et les bus. Et le vélo, on le met soit sur le trottoir ou sur ce qui n'est pas bien, soit on le met sur la route entre les voitures, ce qui n'est pas bien non plus, parce que ça fait trop peur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de ce monde binaire pour arriver dans un monde où il y a cette catégorie un peu spéciale qui est le vélo, qui n'est ni un piéton ni une voiture. Il est un peu entre les deux. Et donc, il faut écouter ses besoins spécifiques, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'un enfant, naturellement, veut faire du vélo. Et même un adulte, quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous faites, c'est pas de louer un train ou un bus ou une voiture, mais c'est de louer des vélos pour vous déplacer. Et l'idée, c'est simplement, pour le collectif Véloïde de France et toutes les associations de vélo de France, c'est de libérer cette envie qui est tout à fait naturelle, et pour la rendre possible. Parce qu'elle est là, il suffit de la libérer.
Mais les Français sont toujours étonnés quand ils vont en Hollande. Les cyclistes n'y sont pas casqués. En France, la sécurité routière nous encourage à mettre un casque. Alors c'est pour la même raison, c'est que le vélo en France, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que nos enfants aillent à l'école à vélo. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait tous mettre des casques quand on fait du vélo.
Mais effectivement, quand on montre des films, c'est la première chose qu'ils me disent. Mais pourquoi ils ne portent pas de casque ? Et en fait, ils ne portent pas de casque parce que, paradoxalement, parce que le gouvernement des Pays-Bas s'occupe de leur sécurité. Pour vous le dire simplement, aux Pays-Bas, au lieu de casquer les cyclistes, pour soi-disant les protéger, on a préféré casquer, payer pour avoir des pistes cyclables pour qu'ils n'aient pas besoin de porter un casque. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Le réflexe de dire, comme on me le dit souvent, mais c'est dangereux, il faut mettre un casque. Mais en fait, en casquant le cycliste, ça veut dire que vous maintenez le danger. Quand un enfant est dans une situation dangereuse, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous éloignez le danger. Et le danger, c'est qui? Ben, c'est la voiture. Ah! Donc, il faut donc séparer les voitures et les enfants. Et dès que vous faites ça, ben, vous allez le voir, mais les enfants, ils font pédaler comme des heureux. Et même les parents. Et aujourd'hui, on a le programme Savoir rouler à vélo, qui est maintenant mis en place par le gouvernement, ce qui va mettre les enfants sur les pédales. Le gouvernement vient de débloquer 21 millions d'euros pour mettre 800 000 enfants sur les pédales dans les 3 années qui vont venir. Et je peux vous assurer que les parents, quand ils vont voir leurs enfants se déplacer à vélo, ils vont se dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi ce serait pas moi qui irais au travail facilement, sans payer de l'essence, sans attendre dans des embouteillages, sans me faire mal au dos, sans etc.
Mais Stijn van Oosteren, en France, la circulation se compte en voiture. Vous le faites remarquer dans votre livre. On ne compte pas en nombre de personnes. Et c'est pour ça que quand vous parlez de pistes cyclables, on regarde les pistes cyclables à Paris notamment, on a l'impression qu'elles sont vides.
Oui, et c'est ça ce que j'ai voulu vraiment tacler avec mon livre. C'est une illusion d'optique. Quand vous regardez ces pistes cyclables, même moi, je suis tombé dans le panneau un jour quand j'ai fait des comptages avec le collectif Éloïs de France. Je croyais, après avoir fait des comptages, de combien de cyclistes passaient sur ces coronapistes, hein, ces pistes cyclables temporaires. Et en fait, je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et quand j'ai fait le comptage à la maison, avec les petits traits que j'avais mis sur ma feuille, j'avais découvert que 20% des personnes qui étaient passées devant mon nez n'étaient pas dans une voiture, mais qui étaient sur un vélo. Et je suis littéralement tombé de ma chaise. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Eh ben, tout simplement parce que le vélo est tellement discret en termes d'espace, ben, que ça prend si peu de place que vous ne le voyez pas. Et paradoxalement, et c'est ça que je développe un peu dans le livre, quand on voit une route bouchée avec des voitures, on se dit, oula, il y a beaucoup de monde, il faut absolument élargir la route. Alors que ce qu'on voit en réalité, c'est un échec en termes de mobilité. C'est une forme de mobilité qui consomme tellement d'espace, hein, parce que chaque personne est un peu dans son salon privé, bah, que ça bouge tout de suite. Alors que pour la piste cyclable, on pense voir une piste cyclable vide, mais en réalité, on voit une piste cyclable fluide, avec des gens qui prennent si peu de place que vous pouvez multiplier le nombre de personnes par 10 et ce sera toujours fluide. Un cycliste, en fait, il n'a pas le temps même d'être dans les embouteillages parce qu'il est déjà arrivé au travail.
Merci Stijn van Oosteren, votre livre est vraiment passionnant parce que effectivement ça change complètement notre regard, à nous les Français en tout cas, sur les mobilités, sur les transports et bien entendu sur le vélo. Il s'intitule « Pourquoi pas le vélo ?», il vient de paraître chez Eco-Société.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine dans quelques instants. Ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Mickaël, vous recevez Jean-Charles Marchiani.
Thierry Mariani, la droite populaire, tête de liste pour le Rassemblement National dans la région sud, où se joue pour 2022 une partie de cartes, mais en mode western.
Merci, bonne émission.